Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Accord d'Alger, quel obstacle à l'opérationnalisation du MOC? 3 ans après la signature de l'accord d'Alger, sa mise en application peine à être effective selon certains. Et des doutes planent sur l'avenir du processus. Attaque contre les camps du mécanisme opérationnel de coordination MOC et ses responsables, retard du DDR et nombre non-accord atteint de combattants pour l'opérationnalisation du MOC. Quels sont les défis liés à l'opérationnalisation du MOC à ces jours? Le blocage actuel est-il de nature à remettre en cause la mise en œuvre de l'accord? Que faut-il faire pour surmonter le blocage? Et nos invités sont Sbeiti Ag Akado, membre de la société civile au Nord. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Sidibé.
Monsieur Boubacar Bokoum est analyste sur ce plateau. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Firoun Maïga au nom de la plateforme. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation.
Le grand dialogue.
Dimanche 9 septembre 2018, Salim Ould Mbeki, commandant de l'unité de la SEMA, a été tué au volant de sa voiture. C'est la deuxième fois qu'un officier du mécanisme opérationnel de coordination MOC est la cible d'un attentat. Alors, comme la SEMA n'est pas sur ce plateau, on va suivre cette réaction de la SEMA après l'attentat.
Le commandant a été assassiné par un véhicule 4x4 qui a tiré à bout portant sur lui à l'intérieur de la ville. En visite ordinaire, il a été la cible de ces individus. Il n'avait pas d'escorte avec lui, il était tout seul dans son véhicule. C'est un officier de la SEMA, c'est le premier responsable du MOC à Tombouctou au compte de la SEMA. Dans telles circonstances, généralement, c'est des opérations soigneusement préparées et ils n'ont pas été identifiés.
Pensez-vous que c'était un règlement de compte ou comment est-ce que vous expliquez la situation?
Je ne saurais le dire à ce stade. Franchement, il faut éviter de se précipiter sur des informations. En tout cas, tout porte à croire que c'est un assassinat ciblé. La personne savait exactement qui elle visait.
Alors, Sbeiti Ag Akado, que pensez-vous de cet assassinat contre cet officier du MOC à Tombouctou?
Bien, merci Sidibé. Merci surtout de nous avoir invités pour nous prononcer sur la situation qui prévaut dans notre pays. Je pense tout simplement que cet assassinat n'est que la suite de tout le chaos, n'est-ce pas, qui s'est installé dans le Nord depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas la première fois que des personnes sont tuées. Ce n'est pas la première fois que entre les groupes armés eux-mêmes, des règlements de comptes se font. Donc, je me suis dit tout simplement que nous sommes installés dans une crise et la crise ne peut que continuer tant qu'on n'aura pas pris la situation par le bon bout. Vous installez ce que j'appellerais des hors-la-loi dans une situation de commander des citoyens, n'est-ce pas, des citoyens qui ne se reprochent rien du tout, vous placez des hors-la-loi devant eux, aucun hors-la-loi ne va accepter qu'un autre hors-la-loi le coiffe. C'est ça le problème. Donc ces groupes-là, ils sont dans une situation où chacun se dit « mais l'autre ne vaut pas mieux que moi, l'autre n'a pas droit plus que moi ». Et ce sont ces choses-là qui amènent les règlements de compte. En attendant que la population silencieuse se manifeste, parce que pour le moment, c'est les groupes armés qui se manifestent entre eux. Demain, ce sera les autres qui n'ont pas pris les armes encore. Voilà.
Merci beaucoup. Je signale que Firoun Maïga de la plateforme vient de faire son entrée dans ce studio. Alors, Boubacar Bokoum, que pensez-vous de cet assassinat contre cet officier du MOC à Tombouctou?
Merci. Je pense que ce n'est qu'une répétition par rapport à l'instabilité qui s'installe dans le nord de notre pays depuis un certain temps. Et cela est dû effectivement, comme M. Cissé l'a dit tantôt, du fait qu'effectivement il y a un certain désordre non organisé. Parce que quand vous parlez du MOC déjà, cela suppose que la coordination doit se faire de façon effective. Parce que le MOC même a pour vocation d'aller à cette coordination. Mais malheureusement, en amont, il y a un certain nombre de problèmes qui n'avaient pas été résolus. Donc je pense qu'on a mis la charrue avant le bœuf. Parce qu'aujourd'hui, qu'on assassine un commandant, ça veut dire que ceux qui l'ont assassiné sont armés. Donc en amont, il fallait résoudre des équations. C'est-à-dire d'abord une forme de justice qui allait consister à faire fonctionner la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il faut réconcilier les gens d'abord. Ce travail, à mon avis, n'a pas été fait à terme. Ensuite, aller au DDR. Et une fois qu'effectivement, c'était à la communauté internationale de donner toutes les garanties aux mouvements armés pour leur dire que l'accord sera respecté dans sa plénitude et avoir les garanties avec l'État malien pour qu'on aille au désarmement. Une fois qu'on a désarmé et qu'on a cantonné, oui, le reste des mécanismes peuvent être mis en place. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui réagissent, qui demandent à être intégrés, mais c'est de bonne loi. Pourquoi certains groupes vont être intégrés et d'autres pas? Et comme l'a dit tantôt M. Cissé, la population silencieuse qui est là. Parce que le Nord que je connais, ce n'est pas seulement que des Tamachèques. Donc dans la majorité, c'est vrai, aujourd'hui, c'est eux qui ont commencé à travers le MLNA, le mouvement. Donc aujourd'hui, les postes clés, on est en train de les donner à un certain nombre de personnes. Et la population noire, qui est en réalité majoritaire, et se trouve laissé pour le compte. Donc ça veut dire qu'en réalité, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de donner une prime à ceux qui ont pris les armes contre le Mali et laisser effectivement cette population silencieuse? Donc il faut intégrer tous ces mécanismes si on veut qu'il y ait une certaine stabilité au niveau de la gouvernance dans ces zones.
Ok. Alors, Firoun Maïga, une réaction par rapport à l'assassinat du commandant du MOC à Tombouctou?
Oui, merci beaucoup. Merci pour Studio Tamani. Ça fait un certain temps que je ne viens pas dans vos studios. Je vois que c'est très joli et puis bon, c'est les micros aussi, c'est très bien.
Merci.
Voilà. D'abord, je m'incline devant la mémoire du commandant, quelqu'un que je connais très bien, très, très respectueux dans ses engagements. Et puis, il y a un officier qu'il faut dire. Qui a été abattu dans la rue, bon, dans des conditions qu'on ne peut. Le deuxième, ce que j'entends, c'est que ça ne s'est pas passé à l'intérieur du MOC. Ce n'est pas le MOC qui a été attaqué. C'est quelqu'un du MOC, un commandant, qui est ressorti, qui, normalement, comme tout autre citoyen, s'est déplacé dans la ville et qui s'est retrouvé dans une situation déplorable parce qu'il y a perte de vie humaine. C'est des situations que, par rapport à la crise, nous avons noté, même si c'était ciblé, c'est comme celui de Gao, où les combattants du MOC étaient ensemble, mais il y a eu une défaillance sécuritaire, et ça a été... Donc il faut remettre ça dans le même cadre, des intentions des personnes mal intentionnées qui ont ciblé une personne, à tort ou à raison, pourquoi on ne le sait pas, parce qu'on ne sait pas les coupables, ils ont fait leur forfait, ils sont partis, et il y a eu mort d'homme. Donc c'est un officier qui est mort, mais on déplore sa mort, mais ce n'est pas le MOC qui a été attaqué, et ce n'est pas le MOC qui est dans une situation comme ça, c'est des éléments du MOC, et ça peut se passer aujourd'hui si, au niveau de la ville de Tombouctou, les aspects sécuritaires ne sont pas pris, et ça c'est de la responsabilité de l'État, si on est dans une ville, de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est la mission régalienne de l'État.
Très bien. Alors, le lendemain de l'assassinat, la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance CMFPR2 a manifesté pour réclamer son intégration au processus. À propos, on va écouter le colonel Ibrahim Issa Diallo, chef d'état-major général de la CMFPR2.
L'assassinat du commandant de la CMA qui était de MOC, nous, en réalité, notre situation n'a rien à voir avec lui. On planifiait il y a un peu longtemps notre réaction au niveau du MOC. Ce n'est pas la CMFPR2 seulement. Il y a la CMFPR2, il y a la CMFPR3, il y a ACRTG, membre de la CMFPR1, il y a Ganda Lesalizo, membre de la CMFPR1, il y a Gandaizo, membre de la CMFPR1, et puis la CMFPR3.
Donc c'est l'ensemble de ces mouvements qui se sont organisés minutieusement sous mes ordres pour s'assiéger devant le MOC, pas assiéger le MOC, mais s'assiéger devant le MOC pour demander juste leur manifester leur mécontentement, leur impatience, parce qu'on les a promis qu'ils doivent rentrer au MOC. Et à présent, ces combattants sont là à attendre, ils ne comprennent rien. Donc, juste pour le lundi, ce qui a eu lieu, c'est vraiment un avertissement, un premier d'ailleurs avertissement pour le gouvernement, la médiation internationale, la CEMA et la plateforme dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Parce qu'on a toujours parlé de l'inclusivité, l'accord est retardé par certains qui veulent toujours marginaliser les autres. Donc nous sommes déterminés quand même désormais à aller jusqu'au bout. Ce qu'on a fait le lundi, en réalité, c'était juste un avertissement à faire savoir à la communauté internationale, au gouvernement du Mali, que certains mouvements sont là à attendre impatiemment leur intégration dans les MOC. Car nous sommes des mouvements signataires et nous sommes membres aussi de la mise en œuvre de l'accord. Sans nous, il n'y a pas d'inclusivité. Il faut que l'inclusivité soit respectée. C'est tout ce que nous demandons.
Alors, Firoud, votre appréciation par rapport à cette manifestation de la CMF-PRD?
Oui, mais c'est tout à fait juste. L'accord, on a dit, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, c'est un accord inclusif. On a demandé à ce que cet accord soit finalisé au niveau du Mali. Ça, c'est pour que les fils de ce pays se retrouvent ensemble et qu'ils discutent. Maintenant, il y a des critères et des engagements qui ont été pris, et ces engagements concernent l'ensemble. Et je suis bien d'accord avec Ibrahim quand il dit que dans la clé de répartition, il revient à la CMFR2, qui est un mouvement qui s'est affiché et que tout le monde connaît, un quota qui leur permettant d'aller. Parce qu'il y a eu un premier sitting, que vous, si vous vous rappelez, à Gao, il y a eu des négociations pour que ce quota soit accepté. Effectivement, il y a eu un accord. Dans ce quota, il y a un nombre X qui revient aux combattants de la région de Tombouctou, et que ceux-ci devraient réintégrer le camp au même moment. Bon, ça coïncide avec les élections, ça coïncide avec tout, ils ont cherché les prétextes, mais je pense que le fait de pouvoir se faire entendre et de dire effectivement qu'ils ont trop attendu est une démarche très constructive, parce que ça permet d'alerter les décideurs en leur disant, bon, vous avez promis de faire intégrer des gens tel jour, et le combattant, quand vous le dites un jour, il ne voit que le jour. Et si ce n'est pas venu, il va venir. C'est la manière de demander pourquoi on n'est pas rentré. Et selon les informations, bon, après une négociation et d'informations de clarification, bon, les choses sont rentrées dans l'ordre. Je pense que la CTS qui se tient aujourd'hui ou demain prendra les dispositions nécessaires pour ça. Parce que si les combattants arrivent au niveau du MOC, ils sont soumis à un certain nombre de demandes de traitement. Il faut un profilage. Il faut saisir les armes, il faut un dispositif, il faut prendre le matériel logistique pour les accueillir et tout ça. Bon, il y a une organisation sur place qu'il faut faire. Bon, pourquoi ça a été lent, on se demande. Mais de toutes les façons, je pense que et les décideurs du MOC et la communauté internationale ont bien compris le message. Je pense que ce message-là, c'est un message normal.
Ok. Akado, une réaction par rapport à cette manifestation?
Bien. Cette manifestation, encore une fois, est juste la preuve que le problème a été mal posé dès le départ. Je ne rentrerai pas dans le décortiquage, n'est-ce pas, du MOC, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le MOC est un segment des contraintes, n'est-ce pas, qu'on a imposées à l'État du Mali. Le MOC est un embryon de la future armée des régions du Nord. Le MOC est un
pourtant
mécanisme.
L'État malien siège dans le MOC.
Oui, mais il siège comment? Un tiers. Les deux autres tiers, c'est les groupes armés. C'est quoi? Et l'État du Mali, il y a tout le monde là-dedans. Les Touaregs, les Arabes sont là-dedans. Donc, c'est vraiment un leurre, quoi. Donc, le MOC, c'est un organe construit pour conduire et sécuriser ce que j'appellerais le futur état de l'Azawad en construction. Nous, c'est comme ça que nous le voyons. Et les textes sont là, ils sont très clairs. Sinon, pour quelle raison, dans des régions peuplées à 91% de Noirs, on va admettre que plus de groupes armés arabo-touareg soient mieux représentés dans les organes de l'accord, plus que l'écrasante majorité des populations. Quand il parle de CMFPR 2, CMFPR 3, c'est un conglomérat de petits mouvements qui disent qu'on n'accepte pas que nos villes soient prises, etc. Et on les a regroupés sous la houlette peut-être d'un ou de deux individus qu'on a intégrés soit dans le comité de suivi, dans ce qu'ils ont appelé CTS, dans ce qu'ils sont en train d'appeler MOC, dans les autorités internes. Partout, on crée les conditions pour que les Arabo-Touaregs soient majoritaires par rapport aux autres. Donc, quand ces groupes-là se lèvent un jour pour dire non, on n'est pas d'accord, moi, je pense qu'il faut comprendre ça sous cet angle. Et je dirais même qu'ils sont en train de prendre du retard par rapport à leur réaction. Ce qu'ils sont en train de faire, ils auraient dû le faire dès le premier jour. Si les choses se règlent par rapport aux régions du Nord, les régions du Nord, c'est les Bambara, c'est les Bozo, c'est les Senoufou, c'est les Touareg, c'est les Bella, c'est tout le monde. On n'exclut pas. On parle d'accord inclusif, en réalité, il est exclusif. Il exclut les gens. Il exclut les sudistes. Il exclut même ceux du Nord, et particulièrement les Bella. Je le dis haut et fort. J'ai suffisamment d'arguments pour le dire. Donc, quand ces gens se lèvent pour manifester leur mécontentement vis-à-vis du fait que on est en train de les retenir pendant qu'on intègre les autres, on est en train de les payer, c'est les impôts des Maliens qu'on est en train de leur distribuer, et eux, ils sont privés de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et cela, au vu aussi de l'État du Mali, au vu aussi de la communauté internationale qui tient des discours, mais qui ne fait rien pour rendre l'accord inclusif, pour rendre les distributions équitables et justes. C'est dommage et lamentable.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Retour donc sur ce plateau pour débattre du thème Accord d'Alger, quel obstacle à l'opérationnalisation des MOC. Alors nos invités sont Firoun Maïga de la plateforme, Sbeiti Ag Akado, membre de la société civile du Nord, Boubacar Bokoum est analyste. Je vous annonce que nos tentatives pour avoir la coordination des mouvements de l'Azawad ont été vaines pour ce débat. Alors, au matin du 18 janvier, je m'excuse, au matin du 18 janvier 2017, un pick-up chargé de 500 kilos d'explosifs se fait exploser dans la cour du camp qui abrite les forces mixtes du MOC à Gao. Plus de 60 morts et des centaines de blessés sont enregistrés. À ce jour, le remplacement des victimes pose problème. Viennent s'ajouter, entre autres, cet assassinat et cette manifestation de la CMFPRD. Alors, le MOC, on le sait, connaît des problèmes à Gao, à Kidal et à présent à Tombouctou. Alors, M. Bokoum, concrètement, quelles sont les raisons de ces blocages-là?
Non, les raisons de ce blocage sont tout simples. M. Cissé vient d'évoquer un aspect qui me semble être capital par rapport à cette approche, c'est que les gens ne se sentent pas réellement impliqués dans le processus de mise en œuvre réelle de l'accord. Parce que c'est vrai, l'accord pour la paix issu du processus d'Alger était là effectivement pour aider les gens à aller vers la paix. Donc ce document, effectivement, il fait une ouverture théorique. Maintenant, dans son application, effectivement, de part et d'autre, le gouvernement du Mali, de mon point de vue, n'a pas joué pleinement son rôle dans cette histoire. Parce que en réalité, quand vous regardez le processus du MOC, alors, quand il y a eu cet attentat à Gao, quelles étaient les mesures réellement que l'État du Mali aurait dû prendre très rapidement? C'est-à-dire qu'il fallait à un moment donné comprendre d'où vient le problème. Pourquoi le MOC a été attaqué? Par qui? Cette enquête, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance qu'il y ait une enquête réelle ait été diligentée, qu'on puisse nous dire exactement qui a attaqué ce camp à la date d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le commandant qui vient de mourir, j'avoue que je ne sens pas aussi une enquête diligentée pour réellement comprendre qui a tué le commandant. Donc à un moment donné, si on ne parvient pas à comprendre que dans les mouvements qui sont signataires, il y a une dissidence interne qui ne dit pas son nom, ou des deux côtés, du côté de l'État du Mali et du côté des mouvements, il y a un groupe qui ne souhaiterait pas aller à l'application de l'accord, qui trouve des intérêts à ce que l'accord traîne encore, parce que c'est une manne financière qui tourne autour de cette histoire, c'est des intérêts individuels qui sont entretenus à un certain niveau par l'État du Mali, c'est de l'argent qui circule pour faire taire à un moment donné un certain nombre de dissidences à l'intérieur du mouvement, où certaines velléités à rejeter l'accord sont gérées par une manne financière. Donc tout ceci montre en fait qu'il y a un malaise réel. Donc à un moment donné, il faut que le gouvernement du Mali ait le courage de s'asseoir avec les mouvements pour discuter réellement des vrais problèmes et de voir quelles sont les avancées qu'il faut avoir par rapport à ça. Et comme je le disais tantôt, la clé, c'est qu'il faut désarmer. Parce qu'on a des gens en face qui ont des armes. Donc qui négocient en réalité, pas avec la tête, mais avec les armes. Qui vous disent, si vous ne faites pas telle ou telle chose, ça veut dire que nous allons recommencer à tuer. Alors, si on va sur la base qu'on est dans un processus de paix, alors dans ce processus de paix, le désarmement doit être total. En ce moment, nous nous asseyons de façon équilibrée, de façon responsable, et on discute des enjeux de développement et des enjeux de prise en compte de tout un chacun. Aujourd'hui, ces mouvements se trouvent être en réalité plus forts que le Mali. Parce que non seulement au niveau des accords, dans l'accord on dit que tout le monde est partie prenante, donc ça veut dire qu'on a mis l'État du Mali et des mouvements qui se sont rebellés contre le Mali sur le même pied d'égalité, ce qui n'est pas normal. C'est un État d'abord. Ensuite, s'il y a des dissidences à l'intérieur, effectivement, on négocie, mais on ne met pas l'État du Mali au même niveau que des groupes qui se sont rebellés contre le Mali. Donc il y a ce problème. Maintenant, si le désarmement n'est pas en réalité effectif, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, il y a des attaques. Des attaques, elles sont faites par qui? Par des gens qui sont armés. À un moment donné, si on parvient à réaliser le DDR comme cela se doit, ça veut dire que s'il y a des groupes armés en dehors de ces mouvements qui ont été répertoriés, on peut les considérer comme des voyous, on peut les considérer comme bandits et les traiter comme tels. Mais aujourd'hui, chaque fois que tu parles de banditisme ou tu sors, on dit, oui, vous êtes contre l'accord, vous êtes en train de saboter, vous êtes en train d'insulter. Mais alors que tout le monde est conscient qu'à l'intérieur de ces groupes, qui en fait ne sont pas homogènes. Il y a des djihadistes à l'intérieur, ils ont des collisions un peu partout, mais que l'État se doit aujourd'hui de démonter si le service de renseignement fonctionne correctement et mettre la communauté internationale devant ses faits. Parce que c'est bien de dénoncer, mais est-ce qu'on est capable d'apporter des preuves? Je pense que l'État du Mali aujourd'hui fait très peu pour faire les enquêtes normales et pouvoir donner des éléments fiables à la communauté internationale pour qu'on puisse résoudre un certain nombre de problèmes.
Ok. Alors, Firoun Maïga, est-ce qu'il y a des raisons en plus de celles évoquées tantôt par l'analyste?
Oui, mais je pense que l'analyste, peut-être que, je ne sais pas, moi je n'ai pas compris sa démarche, peut-être que je n'ai pas, il faut faire la part des choses. Le MOC est un mécanisme qui est inscrit dans l'accord, sa mission est bien claire. Elle est sous la responsabilité de la CTS et celui qui dirige le MOC, ça c'est la MINUSMA, le Force Commander. Pour vous dire, c'est un mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir aider au processus de cantonnement. Leur mission, c'est de pouvoir surveiller les sites de cantonnement et ça a été élargi à un certain moment avec l'installation des autorités intérimaires pour pouvoir accompagner et sécuriser. Ce mécanisme-là est mis en place et la deuxième phase de ce mécanisme, c'est de demander au mouvement, par rapport aux négociations, de donner un certain nombre d'éléments et pour Gao et pour Tombouctou et Kidal. Alors, les éléments qui sont donnés, c'est trois bataillons, un bataillon pour Gao, un bataillon pour Tombouctou, un bataillon pour Kidal. Les effectifs qui sont désignés viennent au MOC avec leurs armes. Mais avant qu'ils ne viennent, il y a un dispositif à prendre. Parce que le cas de Gao, on a voulu prendre tout le monde pour essayer de voir comment est-ce que... Parce qu'on a voulu démarrer par ça. Malheureusement, il y a eu une faille en ce qui concerne le dispositif sécuritaire, et vous comprenez bien, nous sommes dans un État aujourd'hui qui est dans une phase de négociation de mise en œuvre de l'accord, mais nous avons aussi d'autres forces parallèles qui ne sont pas engagées par l'accord et qui ne sont pas engagées, qui ont leur propre vision. Et jusqu'à aujourd'hui, le Mali n'a pas pris une disposition nécessaire pour intégrer cette dimension-là dans un processus, que ce soit l'accord ou quoi. Ils ne revendiquent pas un État, ils ne revendiquent pas, ils ont une vision bien claire de leur démarche. Et aujourd'hui, elle a muté jusqu'au Delta central, et bon, ça se trouve même aujourd'hui, même à Bamako, parce qu'elle elle a une orientation. Alors, ce que je veux juste dire, c'est le moque de Gao, le moque de Tombouctou, le moque de Kidal est en préparation. Ceux qui viennent au moque vont subir un certain nombre d'orientation, on va les expliquer, mais ils ont aussi un passage à faire. C'est ce qu'on appelle la première des choses, c'est le profilage. Donc, dans le profilage, le combattant qui arrive, qui est un élément désigné par la CMA ou la plateforme, est soumis à un certain nombre de questionnements, est soumis à un certain nombre de tests pour qu'on sache effectivement est-ce que c'est un combattant réel ou c'est un combattant entre guillemets. Alors, les instruments qu'il faut mettre en place pour pouvoir amener ce mécanisme à être beaucoup plus fluide, beaucoup plus accéléré, demandent beaucoup d'efforts. Et le cas de Gao a donné l'alerte. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre qu'à Tombouctou et à Kidal, les dispositifs qui ont été mis en place n'est pas de regrouper les gens en un. Donc, ils sont venus par groupe. Le premier contingent qui est rentré dans le MOC de Tombouctou, c'est un contingent qui devrait être formé pendant 2 ou 3 semaines. Et c'est pour la sécurisation même du truc. Un deuxième contingent va rentrer, qui va être pris en main et qui vont aussi avoir cet exercice, ainsi de suite, jusqu'à ce que le bataillon soit. Et au même moment où ils entrent, les dispositions sécuritaires sont prises, la logistique accompagne et les conditions même d'opérationnalité de ces éléments vont se faire. Ça, c'est ça le mécanisme. Sa mission, c'est de pouvoir appuyer l'accord. C'est totalement différent du processus de cantonnement où les listes des éléments des combattants des différents, ceux qui se sont engagés, vont être déposées et ils seront dirigés sur des sites de cantonnement sécurisés par les mêmes éléments du MOC.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Firoun. Alors, avant de venir à Kado, nous allons retourner encore écouter le colonel Ibrahim Issa Diallo, chef d'état-major de la CMFRD, à propos de ces blocages.
Bien sûr. Les MOC, c'est un mécanisme opérationnel de coordination. Et quand on dit un mécanisme opérationnel de coordination, c'est la représentativité de tous les autres mouvements qui constituent le MOC. D'autant plus que moi, je n'ai pas un représentant au sein du MOC. Vous savez que quand le MOC va sortir, par exemple, en patrie, mais les éléments qui n'ont pas le représentant parmi cette patrie mixte-là, vous croyez qu'ils ne seront pas désarmés? Et quand ils vont refuser de se soumettre, mais est-ce qu'il n'y aura pas de combat entre ces gens-là? Mais lorsqu'il y a la représentativité partout, de part et d'autre, je crois que la mission peut pouvoir très bien avoir lieu, parce que chacun se voit représenté dans cette mission qui est en train de ramener la paix au Mali. On ne peut pas s'opposer en ce moment. Donc si réellement on veut la paix, on veut que la paix revienne, on veut réellement détecter tous ceux qui sont en train d'entraver le processus de paix, il faut que tous les mouvements soient représentés au sein du MOC. Là, celui qui va se retirer à côté pour essayer de dire qu'il y a ceci, il y a cela, on va l'indexer, on va savoir que celui qui est contre la paix, celui qui ne veut pas que tout cela, comme on appelle la paix, revienne au Mali, mais tant que ceci n'est pas en réalité pris en compte au sein du MOC, ce ne serait pas possible. Pour moi, je ne peux pas vous dire que la paix peut revenir, parce qu'on ne peut pas conditionner certains, abandonner certains mécontents dans la ville et dire que tu vas bien travailler dans la ville. Ce n'est pas possible.
Spiti Agakado, est-ce que ces blocages sont de nature à remettre en cause l'accord de paix lui-même?
L'accord, mon cher Sidibé, tous les analystes, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, vous ont dit qu'il est fait pour ne pas être appliqué. Il est pratiquement, je dirais, impossible de l'appliquer. Or, si vous suivez les dernières déclarations des groupes armés, un de leurs mots d'ordre, c'est l'application intégrale de l'accord. Dans le même temps, vous entendez les autorités du Mali, application intégrale de l'accord. Mais disons, regardons-nous en face là et posons-nous la question. Qui bloque l'accord depuis combien d'années? Ce n'est pas les Maliens quand même. C'est qui alors? C'est le pouvoir. les groupes armés et la communauté internationale. On leur a laissé donner feu vert. Qu'est-ce qui a bloqué? Il s'est bloqué parce que, tout simplement, encore une fois, c'est une construction inapplicable. Une construction injuste. Même ceux qui sont concernés sentent que c'est injuste. Je l'ai dit tantôt. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un devant des hors-la-loi et leur dire d'obtempérer. Non, ils ne vont pas accepter. Il y a des djihadistes, il y a des groupes armés, légalistes, il y a des groupes armés, non, il y a n'importe quoi là-dedans. Donc dans ces conditions-là, ceux qui se sont installés dans le processus ne feront rien pour que ça change. Mon collègue l'a dit, les gens se mangent là-dedans. L'État, quand je dis l'État, les pouvoirs qui ont la charge de gérer et d'orienter cette histoire-là, on n'est pas dupes. S'ils ne sont pas paresseux, ils sont de mauvaise foi, ou bien ils ont des calculs mercantiles, ou bien ils ont des calculs politiques. Nous l'avons vu dernièrement. Ce sont les groupes armés qui ont voté, qui ont bourré les urnes. Je ne rentre pas dans cette polémique-là, mais c'est clair et net qu'on se sert quelque part de ces gens-là pour, n'est-ce pas, arriver à d'autres fins. Bon, vous imaginez, tout le monde gagne son compte là-dedans. Les Européens, je ne vous en dirai pas long là-dessus. Ils sont là pour leurs intérêts. Plus ça dure, plus les armes sont achetées, plus les véhicules sont achetés, plus ils s'installent, plus ils s'enracinent dans le pays. Donc, encore une fois, le blocage, ce n'est pas les Maliens. Le blocage, c'est la fuite des responsabilités. La fuite, n'est-ce pas, des responsabilités du pouvoir du Mali qui n'est pas arrivé un seul instant à convaincre les Maliens du bien fondé de la signature de cet accord-là et du bien fondé de sa mise en œuvre. On ne peut pas mettre en œuvre un accord qui concerne des populations et ne pas tenir compte des poids démographiques des uns et des autres. Sinon, rien n'a obligé l'État du Mali, le pouvoir du Mali, à accepter que dans le MOC soit représenté plus d'Arabes et de Touaregs que de Noirs, que dans le comité de suivi, il soit plus représenté, que nos autorités intérimaires deviennent à 90% des Arabo-Touaregs. Prenez la liste des autorités intérimaires de Niafenke. Vous ne verrez pas un peu là-dedans. Elles sont majoritairement dirigées par des Arabotoires. C'est valable dans tous les cercles. Donc c'est pourquoi je dis encore une chose, on est dans une fuite en avant. On est en train de nous gagner par le temps. C'est eux-mêmes qui brouillent les pistes. Je dirais l'État, je ne parlerai même pas de la France, parce que nous, notre premier responsable, c'est l'État. S'ils ne s'assument pas, pour dire que trop, c'est trop. Ce qui est caché aujourd'hui est visible. Et qu'il devient désormais coupable aux yeux des Maliens, l'État devient coupable de cette machination qui ne finit pas. On est fatigué. On ne peut pas circuler aujourd'hui. Il est là, il est de Tombouctou. On ne peut pas circuler. Aucun noir ne peut prendre un véhicule et faire le commerce, le transport entre Tombouctou et une autre cité de la région de Tombouctou. Tout est monopolisé par les Arabo-Touaregs, au vu aussi de l'État, au vu aussi de la MINUSMA, au vu aussi de la France. C'est quoi ça? On va nous dire quoi? Il est temps que l'État arrête de torturer les Maliens. Il est temps que l'État arrête de mentir aux Maliens. S'il n'est pas capable de gérer cette affaire-là, qu'il s'en lave les mains et les gens vont régler leur compte entre eux.
Action.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Je vous annonce que nous sommes dans le cadre du Grand Dialogue à propos du MOC. Donc, nos invités sont Firoun Maïga de la plateforme, Sbeiti Ag Akado, membre de la Société Civile du Nord, Boubacar Boukoum est analyste. Alors, Boubacar Boukoum, pour certains, cet accord est dépassé et ne peut ramener la paix au Mali. Qu'en pensez-vous?
Non, je ne pense pas que cet accord soit dépassé. Vous savez, dans l'accord, c'est vrai qu'il y a des choses que je pense peut-être non opérationnelles. Mais ce qui retient mon attention dans l'accord, c'est que déjà, tous les protagonistes de la signature de cet accord sont d'accord avec l'unicité du Mali. Donc déjà, nous sommes dans une république unie, indivisible et laïque. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, dans l'accord, quelles que soient les difficultés d'application, il est dit que nous pouvons nous asseoir et discuter du contenu de l'accord. C'est là où je pense qu'à un moment donné, que les dirigeants ils manquent de courage et d'intelligence. Ça veut dire quoi? Nous avons signé un cadre global que nous avons pensé à un moment donné pouvoir nous ramener la paix parce qu'on était débordé par la guerre. C'est une très bonne chose de planter le décor et de trouver un canevas d'accord pour essayer de stabiliser le pays. Très bonne chose. Donc, on peut critiquer. Un accord, il n'est jamais parfait. Il y a toujours des difficultés. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Ce n'est pas un problème. Mais une fois que l'État s'est engagé et a signé l'accord, nous nous devrions tous, effectivement, vu cet engagement de l'État malien, de nous voir dans cet accord. Maintenant, dans l'analyse de l'accord, les parties qui posent problème, qu'est-ce qui empêcherait l'État malien d'appeler tous les mouvements, tous les protagonistes, tous les signataires et leur dire, bon, à tel niveau, il y a un souci. Et comme vous êtes partie intégrante du peuple malien, comme l'a dit tantôt M. Cissé, c'est que on rebellote, on rediscute de certains aspects et le peuple se prononce. Les arabo-berbères ou tamachèques, ils ne sont pas au-dessus du Mali. Il faut qu'à un moment donné qu'on arrête. L'accord aussi que nous avons signé à un moment donné, c'est pour le bien des Maliens. Alors, si dans l'application nous nous rendons compte qu'il y a des difficultés, il faut que tous les protagonistes aient le courage de s'asseoir sur la même table et de dire qu'à tel niveau, nous avons des soucis. Et voilà objectivement quels sont les soucis que le peuple malien a par rapport à l'application de telle partie ou telle partie de l'accord. On s'assoit, on le révise. Il n'est pas dit que l'accord doit être considéré comme une Bible ou bien comme un Coran où on dit c'est sacré, on ne touche à rien. Donc nous avons la possibilité avec nos intelligences et avec les mécanismes que nous avons par rapport à la gestion généralement de nos crises et de notre société pour nous rasseoir et discuter. C'est parce que nous avons accepté de discuter qu'on est à l'accord. Alors pourquoi cet accord, on ne peut pas le remettre encore sur la table et le discuter s'il y a des difficultés? Donc je pense qu'à un moment donné, l'État manque de courage pour s'assumer et manque encore une fois de plus de courage de dire au peuple malien là où ça coince. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu, j'ai suivi tout à l'heure M. Maïga qui était en train de m'expliquer un peu le fonctionnement du MOC. Je pense qu'avec plus de pédagogie, et on a un gouvernement qui communique très mal, qui ne parle pas à son peuple. Même la difficulté aujourd'hui du sitting qu'il y a eu à Tombouctou, c'est parce qu'à un moment donné, les gens se sentent insultés. Parce que des choses se passent, on ne comprend pas. Mais personne n'est là pour expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi vous êtes à quel niveau, pourquoi vous devez attendre, pourquoi. Bon, alors en fait, c'est ce qu'on attend d'un État. Alors, si l'État est là et que vous avez promis d'appliquer quelque chose, s'il y a des difficultés d'application, il faut que vous donniez des explications. Et très rarement, j'ai vu l'État du Mali. C'est vrai, nous, on vient sur les plateaux pour expliquer un certain nombre de choses en fonction de comment nous comprenons et comment nous analysons les problèmes. Mais l'État du Mali devrait périodiquement sortir pour expliquer aux Maliens quelle est la progression de l'accord, qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que ça bloque. Donc, créer un dialogue entre l'État et les citoyens et à un moment donné, et avoir une symbiose pour pouvoir avoir quand même des argumentaires, des éléments valables pour aller à la table de négociation et demander même à la France et à la MINUSMA, voilà, à tel niveau, il y a des problèmes, il faut qu'on renégocie ces différents aspects. Mais si on ne va pas dans cet exercice, comment vous voulez que certaines parties qui posent problème, où on a oublié une partie de la population à un moment donné, vous voulez que ce soit fonctionnel? Ça ne le serait pas. Il y aura toujours des problèmes parce qu'à un moment donné, l'inclusivité réelle n'existe pas. Il y a une partie de la population, il faut se le dire, qui a été laissée de côté. Quand vous regardez le Sud est carrément exclu du processus en réalité. Il a fallu à un moment donné qu'il y ait certaines réactions pour que les gens essayent de trouver intelligemment des petits mécanismes pour faire coller le Sud, alors qu'il s'agit d'une entité. Donc le problème, il doit être résolu dans sa globalité et cet accord, il doit être fusionnel. Il faut que tout le peuple malien se retrouve dans cet accord. Donc s'il y a des points dans lesquels nous ne nous retrouvons pas, il faudrait que nous discutions. Et à un moment donné, il faut que peut-être que l'accord dans sa révision doit nous amener à un référendum réel, qu'on se prononce réellement par rapport à cet accord à un moment donné, ou qu'on se prononce même par rapport à la République de l'Azawad qui est en train de prendre forme sans que les gens osent réellement le dire. Il y a des zones aujourd'hui où tout laisse à croire que la République de l'Azawad s'est totalement installée. Nous voyons à longueur de journée des campagnes, à tort ou à raison d'intox ou je ne sais pas trop, mais quand même des campagnes du drapeau de l'Azawad, des campagnes de la monnaie de l'Azawad, du passeport de l'Azawad, de l'hymne national de l'Azawad, des choses qui se passent, qui n'auraient pas dû se passer dans un État qui est responsable. Pendant que la communauté internationale est là pour dire que nous soutenons le Mali, c'est du Mali qu'il s'agit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale a le droit de soutenir une république de l'Azawad? Il s'agit de la stabilité et de la paix au Mali. La MINUSMA est là pour ça. Donc, les autres sont là pour nous aider, pour stabiliser le pays. Donc, ce n'est pas normal que ces mêmes institutions internationales observent de pareils comportements de la part de nos concitoyens qui sont en train d'aller vers la création d'une république et de les laisser faire les choses comme on est en train de le voir aujourd'hui.
Alors, nous, à propos des défis pour l'opérationnalisation du MOC, donc nous allons écouter toujours le colonel Ibrahim Issa Diallo.
Aujourd'hui, même ceux qui sont rentrés, en réalité, le MOC a de sérieux problèmes. Tantôt, on parle de manque de moyens, tantôt, on parle de je ne sais pas quoi, mais nous, ça ne nous regarde pas. Nous, ce qui nous regarde juste, c'est notre intégration au sein du MOC, comme on l'a fait à Gao pour nous, comme on l'a fait pour nous au sein des autres commissions nationales qui sont à Bamako. Et on a même des décrets additifs qu'on attend impatiemment aussi leur signature. Tant qu'il n'y a pas ceci, le MOC ne peut pas marcher. Certains sont à la porte, ils veulent rentrer, on les entrave, et ceux qui sont rentrés déjà ont des problèmes, ils ne peuvent pas travailler. Parce que ceux-ci vont continuer à faire un blocage dans la ville. Le MOC ne peut en aucun cas fonctionner en réalité sans l'inclusivité. Tant que les autres ne sont pas rentrés et qu'il y a l'inclusivité, que les gens sachent que ça ne va pas au sein du MOC.
Alors, Firon, selon vous, quels sont les défis liés à l'opérationnalisation du MOC aujourd'hui?
Oui, avant de tout ça, j'ai entendu mes collègues qui ont pris l'accord sur un truc. Je comprends, l'accord n'est pas parfait, on peut le critiquer à tort ou à raison. Mais moi, je suis devant ce plateau, je suis de la plateforme, j'ai été partie prenante de l'accord. Même si Soubeti aujourd'hui parle de la société civile, il a été un de nos compagnons à un certain moment.
Je le suis encore.
Voilà. Donc nous avons fait Alger ensemble. Les circonstances dans lesquelles nous sommes arrivés et ce qu'on a pu faire pour amener le Mali à ce niveau-là est un effort qui n'est pas à jeter comme ça dans le néant. Je peux dire, l'accord doit être inclusif. L'accord le dit, inclusivité. L'accord le dit, il faut mettre des mécanismes en place. Et ces outils-là vont permettre effectivement d'arriver à la mise en œuvre même de l'accord. Alors, les difficultés de mise en œuvre des outils techniques permettant effectivement aux populations de comprendre le bien fondé de l'accord dans sa faisabilité, c'est vrai, posent des inquiétudes parce qu'il y a un ralentissement et il y a aussi des complications. Alors que l'accord a parlé de volonté politique des partis. C'est vrai que le MOC qui devrait... depuis, dans l'accord, un certain délai qui a été donné, n'a pas pu être opérationnel parce que. Mais je vous avoue que le gouvernement du Mali fournit l'effort nécessaire. Les réunions se font entre les trois parties signataires pour essayer de rendre le MOC opérationnel. Maintenant, l'opérationnalité du MOC, ça concerne ceux qui sont signataires, et comme Ibrahim l'a dit, et ceux qui sont... La CMFR2 est un mouvement affilié à la CEMA. Donc, c'est un mouvement signataire de l'accord. Donc, ils ont un quota, et ce quota devrait être pris en compte comme pour les autres. Si le dispositif n'a pas été aussi rapide opérationnel, on peut le comprendre. Mais ça veut dire que dans la mise en œuvre de toute œuvre, il n'y a pas de la perfection. Il faut aller, il faut de l'engagement. Et c'est ce que je peux dire. Et je pense que ces défis sont en train d'être relevés. Et dans les semaines prochaines, je pense que ce mécanisme va être pris en main. Et je pense que le MOC serait dans la logique de ce qu'on dit pour que les combattants fassent leur mission.
Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive quand même à terme. Mais rapidement, en deux mots, Akado, est-ce que l'accord permet d'aller vers la paix au Mali?
Monsieur Sidibé, moi, je vais juste tirer une petite conclusion pour dire qu'il est clair et précis que l'État du Mali, si je préfère dire les pouvoirs au Mali, accompagnent un processus qu'ils n'ont pas élaboré, auquel ils n'ont pas été associés. Ils l'accompagnent et ils ne sont ils ne sont pas capables de l'influencer par quoi que ce soit. C'est ce que nous sommes en train de voir.
Merci beaucoup. Nous disons merci à Akado, Speiti Ag Akado. Merci à Firon Maïga de la plateforme. Merci Boubacar Bokoum. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 au 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par la rédaction de Studio Tamani et mis en onde par Gagny Kanté. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Aliou Sidibé et la coordination est assurée par Mouhamadou Touré. À la prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mouni.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.